Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant. La méditation proposée aujourd'hui pose cette question peu habituelle. Que se passe-t-il juste après les miracles de Jésus? Nous restons très souvent fixés sur l'acte en lui-même du miracle, le surnaturel, l'extraordinaire, et c'est compréhensible. Mais qu'est-ce qu'un miracle change chez une personne qui l'a vécu ou qui en a été témoin? Quel impact cela a-t-il sur sa foi et sur sa compréhension du monde? C'est la question qu'on se pose ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry André, pasteur et chargé de mission du lien fédératif pour la Fédération protestante de France. Bonjour.
Bonjour Benjamin.
Alors, chargé de mission pour le lien fédératif, ça veut dire quoi? Quel est votre rôle?
Alors, mon grand défi, c'est de parcourir la France, de visiter les différentes représentations de la Fédération protestante localement, en province, que ce soit dans des grandes villes pour la plupart ou dans des territoires plus ruraux, et de voir comment nous pouvons améliorer, développer les relations entre les églises, entre les œuvres de la Fédération protestante de France.
Donc, il faut bien imaginer que la Fédération, ça représente un protestantisme très très divers. Il y a combien d'églises, combien d'œuvres à peu près qu'on doit fédérer?
Alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas en tête, mais effectivement, le grand défi, c'est de rassembler des églises et des œuvres qui vont des luthéraux réformés jusqu'aux charismatiques les plus extrêmes. Et c'est un vrai défi, vous pouvez imaginer.
Qu'est-ce qui vous motive dans cette mission de dialogue entre les différentes églises?
C'est de prendre conscience qu'en fait, nous n'avons pas à nous tout seuls toute la révélation et toute la compréhension de ce qu'est le corps de Christ et que nous avons besoin les uns des autres, en fait, pour participer, contribuer à la construction de ce corps de Christ en France, sur l'ensemble du territoire, avec les différentes couleurs que nous représentons.
Vous voyez des choses changer, des choses bouger dans des relations entre les églises protestantes qui sont pas toujours évidentes ou parfois simplement absentes.
Alors, je crois que c'est surtout lié aux bonnes volontés locales sur le terrain de décider d'entrer dans cette démarche de fédération, d'avoir un lien fédératif fort. Mais par mes premières visites, je suis vraiment encouragé en constatant que la grande diversité de la Fédération protestante n'empêche pas une volonté d'aller de l'avant et d'essayer d'écouter l'autre, de le comprendre avec son parcours et ses défis.
Alors ce matin, vous nous proposez une méditation autour du miracle, plus précisément de ce qui se passe après un miracle. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème ?
Je suis convaincu que les miracles qui nous sont rapportés dans les évangiles ou même dans l'ensemble des écritures bibliques ne sont pas limités à cette Bible que nous lisons, mais qu'il est possible aujourd'hui encore de les vivre. Alors après, nous verrons comment nous allons gérer cette histoire de miracle. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un miracle? Est-ce que c'est suffisant pour changer nos vies et est-ce que cela transforme nos vies de façon durable?
Est-ce que parfois on n'attend pas trop les miracles aussi?
Oui, le risque c'est de vivre sur le miracle, sur l'attente du miracle, et du coup d'être déconnecté de la réalité, de la banalité de la vie quotidienne. Mais je crois que les évangiles nous disent que le miraculeux peut s'inscrire dans la banalité de notre vie quotidienne, et on verra comment cela peut se faire.
Eh bien, vous allez nous en parler maintenant dans ce temps de méditation dans lequel vous nous conduisez.
Alors, personnellement, j'apprécie tout particulièrement l'évangile de Marc, car il va droit à l'essentiel. C'est le plus court des quatre évangiles, le plus concis, et à cet effet, il met en relief de façon toute spéciale certains événements. C'est le cas pour la portion de l'évangile sur laquelle j'ai choisi de m'arrêter aujourd'hui, à savoir celle du chapitre 8, les versets 10 à 21. Alors, je vais lire ce passage. Aussitôt, il monta, alors il c'est Jésus, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous encore le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ?» Ces quelques versets que nous venons de lire ensemble s'inscrivent à la suite de 2 événements similaires qui nous sont relatés par Marc l'évangéliste. Le premier, c'est la multiplication des pains pour les 5000 hommes, dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 30 à 44. Et le second, c'est la multiplication des pains pour les 4000, dans l'évangile de Marc au chapitre 8, les versets 1 à 9. Je me permets de souligner cette double multiplication des pains, car dans la barque qui les conduit sur l'autre rivage, Jésus fait clairement référence à ces 2 événements dans ses échanges avec ses disciples. Que nous faut-il donc souligner dans ces quelques versets que nous venons de lire ? Tout d'abord, les faits. Comme je viens de le souligner, les disciples viennent d'assister et de participer à une première multiplication de pains à partir de 5 pains fournis par un petit garçon, dont il est resté 12 corbeilles pleines de morceaux, et à une deuxième multiplication de pains à partir de 7 pains disponibles dans la foule, dont il est resté 7 corbeilles pleines de morceaux. Les disciples ont donc vu de leurs propres yeux 2 signes indiscutables, incontestables de la puissance de Dieu, et ils ne peuvent donc pas les avoir oubliés. Il est aussi intéressant de noter que, tout de suite après le miracle de la multiplication pour les 4000, Jésus et ses disciples tombent sur des pharisiens qui viennent à la rencontre de Jésus pour lui demander un signe venant du ciel. C'est à croire que ces pharisiens sont totalement aveuglés, incapables de voir tous les miracles déjà accomplis par Jésus, ou alors qu'ils sont profondément malhonnêtes en voulant toujours mettre à l'épreuve Jésus sur ses capacités à faire des miracles. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne répond pas à la requête des pharisiens, si ce n'est par un soupir, puis il remonte dans la barque avec ses disciples pour aller sur l'autre rive. Quoi qu'il en soit, une semence de doute a été semée dans le cœur des disciples et nous le constaterons assez rapidement. En effet, là, dans la barque, ironie du sort, les disciples se rendent compte qu'ils ont oublié de prendre du pain et qu'ils n'en ont qu'un seul avec eux dans la barque. On peut supposer que l'inquiétude les saisit puisque même s'ils n'ont encore rien exprimé verbalement, Jésus s'adresse à eux et leur fait cette déclaration surprenante. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Pourquoi Jésus dit-il cela ? N'est-il pas hors sujet ? En fait, Jésus veut mettre en garde ses disciples contre deux dangers qui les guettent dans cette situation où ils sont mis au défi en ce qui concerne leurs propres besoins basiques de nourriture. Après tout, les disciples n'ont-ils pas entendu Jésus les invitant à demander au Père leur pain de chaque jour, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 11 ? Ne l'ont-ils pas également entendu affirmer qu'il était lui-même le pain de vie, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 35, ou qu'il était lui-même le pain venu du ciel, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 51 ? En dépit de cela, et même s'ils viennent d'être témoins coup sur coup de la capacité de Jésus à multiplier du pain pour des foules, les disciples s'inquiètent et laissent la peur les envahir. Alors, ces deux dangers auxquels Jésus fait référence, quels sont-ils ? Jésus nous les présente comme étant du levain. Or, le levain, c'est cette substance qui, bien que toute petite, a la capacité de faire augmenter de volume et de modifier les proportions d'une masse. Le premier levain dont il est question, c'est le levain des pharisiens. Jésus dit en effet « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens ». En quoi consiste donc ce levain des pharisiens ? Pour cela, il nous faut nous diriger vers le texte parallèle en Matthieu chapitre 16. Le verset 12 de ce chapitre 16 de Matthieu nous donne un premier élément de réponse. « Les disciples comprirent que ce n'était pas du levain du pain que Jésus leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Le levain est donc ici, dans l'évangile de Matthieu, présenté comme étant un enseignement. En résumé, ce mauvais enseignement des pharisiens disait « Pour être agréable à Dieu, il faut avant tout appliquer à la lettre les commandements de Dieu sans aucune entorse possible. » Par exemple, lorsque Jésus guérit ou chasse des démons le jour du sabbat, cela pose un problème aux pharisiens, parce que selon les commandements de Dieu, ce jour-là était destiné au repos, avec toute une liste de choses à faire ou à ne pas faire, pour plaire à Dieu. En fait, le comportement des pharisiens est dicté par des règles religieuses impossibles à appliquer sans péché, et cela les conduit à être hypocrites. En effet, imposer des règles aux autres sans pouvoir ou vouloir soi-même les respecter, c'est cela l'hypocrisie. Et c'est précisément pour cela que Jésus dit aussi, en Luc chapitre 12, verset 1, « Méfiez-vous avant tout du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Ainsi, le levain des pharisiens, c'est un enseignement qui conduit à l'hypocrisie, un système religieux. Jésus dit donc à ses disciples qui s'inquiètent de ne pas avoir assez de pain pour le voyage, « Attention, dans cette situation, ne laissez pas ce système religieux, cette logique religieuse dont les pharisiens se voulaient les garants, vous envahir. Vous pourriez alors penser que Dieu ne serait pas disposé à répondre à votre besoin de pain parce que vous n'avez pas été à la hauteur ou parce que vous n'avez pas respecté à la lettre tel ou tel commandement. Vous pourriez donc croire que Dieu, en représailles, ne pourvoira pas à vos besoins. Cette simple pensée semée dans le cœur des disciples avait finalement le pouvoir de les envahir et de les priver ainsi de la solution que Dieu avait prévue pour eux. Mais comme nous le verrons dans quelques instants, le moyen d'obtenir cette solution est très différent. Je vous propose donc d'aborder maintenant l'autre levain dont Jésus met en garde ses disciples. Il s'agit du levain d'Hérode. Jésus dit en effet « Attention, méfiez-vous du levain d'Hérode ». L'Hérode auquel Jésus fait référence était gouverneur de la Galilée. C'est lui qui avait fait décapiter Jean-Baptiste. C'était un homme qui vivait dans la sensualité et qui cherchait à arriver à ses fins par la ruse. Hérode symbolise donc tout le système séculier, humain, peut-être même étatique, tout système qui cherche à évacuer Dieu de l'équation. Ainsi, lorsque Jésus dit à ses disciples dans la barque « Attention, méfiez-vous du levain d'Hérode », il leur dit en fait « Attention, que cette peur de ne pas avoir assez à manger ne vous pousse pas à vous tourner vers des solutions humaines, à attendre d'un système purement humain, celui de l'État peut-être, qu'il soit votre pourvoyeur. » Se méfier du levain des pharisiens, se méfier du levain d'Hérode, Jésus met en garde contre deux systèmes, ou deux logiques. L'un qui cherche à inclure Dieu dans l'équation, mais de façon tordue, c'est-à-dire à la façon des pharisiens, et l'autre qui cherche à exclure Dieu de l'équation, et il s'agit donc de celui d'Hérode. Quelle solution propose alors Jésus ? Il commence par adresser toute une série de questions radicales à ses disciples. Il leur dit, par exemple, « Ne vous rappelez-vous pas ? Quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? Quand j'ai rompu les pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ?» Que devaient donc comprendre les disciples ? Pourquoi Jésus leur reproche-t-il de raisonner en eux-mêmes, de ne pas comprendre, de ne pas encore saisir, d'avoir le cœur endurci, d'avoir des yeux et de ne pas voir, d'avoir des oreilles et de ne pas entendre ? Jésus n'est vraiment pas tendre avec ses disciples. En les bousculant un peu par toutes ces questions, il veut leur faire comprendre que la solution à ce besoin de pain qu'ils ont là dans la barque ne proviendra pas d'un système religieux ou d'une logique religieuse, ni d'un système séculier ou d'une logique séculière ou étatique. Pire encore, en accueillant ces deux logiques en eux, elles ne pourront que les envahir, les paralyser et les empêcher ainsi de recevoir pleinement la seule vraie solution qui, elle, provient du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Ce royaume des cieux qui s'est approché avec la venue de Jésus sur terre et qui est venu apporter une autre logique, une autre façon de raisonner. Ce royaume dans lequel nous sommes transférés lorsque nous accueillons Jésus, Christ, comme notre Sauveur personnel, reconnaissant qu'il nous a acquis un pardon plein et définitif en mourant sur la croix à notre place. Cette démarche de foi nous fait, selon ce que disent les Écritures, naître de l'Esprit, comme l'explique Jésus à Nicodème lorsqu'il vient le voir de nuit, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. La façon de raisonner du royaume des cieux dit « Prenez ce que vous avez, les 5 pains et les 2 poissons, ou alors les 7 pains et les quelques poissons, présentez-le-moi, soumettez-le à la logique du royaume, alors non seulement vos besoins seront pourvus de façon surprenante, miraculeuse, mais il y aura encore de quoi nourrir la foule environnante et bien plus, il y aura des restes, beaucoup de restes. » Cette logique du royaume des cieux est complètement à l'inverse de celle du système des pharisiens ou de celui d'Hérode. Se tourner vers un système religieux ou séculier en temps de crise, c'est démontrer qu'on est avant tout centré sur soi-même, sur ses besoins, c'est se laisser envahir par des façons de penser erronées qui finissent par emprisonner, paralyser, sans forcément pourvoir aux besoins. Se tourner vers la logique du royaume, c'est présenter à Jésus le peu que j'ai, ce peu devient alors un levain qui non seulement pourvoit aux besoins, mais se multiplie au point qu'il permette encore de donner à d'autres, tant l'abondance est au rendez-vous. Thank you.
pasteur Thierry André, je crois que vous avez une expérience personnelle à partager aussi à ce sujet pour nous illustrer cette idée.
Tout à fait, avec grand plaisir. Je peux d'ailleurs témoigner que j'ai vécu quelques expériences qui m'ont encouragé à ce sujet. Les premières se situent dans le domaine financier. C'est avéré que dans certaines périodes de ma vie, je me suis trouvé face à des défis financiers. Et à l'image des disciples, j'ai eu la tentation de me laisser submerger par la logique des pharisiens qui me faisaient dire que je n'avais pas vraiment été à la hauteur ces derniers temps et que peut-être que pour cette raison même, Dieu ne pourrait pas répondre à mes besoins. Ou alors je pouvais basculer dans la logique d'Hérode qui pouvait me pousser à chercher des solutions où Dieu n'était pas dans l'équation pour trouver une réponse à mes besoins financiers. J'ai donc décidé d'appliquer ce que je viens de partager dans cet évangile de Marc et j'ai soumis ce besoin financier à Dieu à maintes reprises. Et du coup, je l'ai vu intervenir de manière assez surprenante parfois, avec des arrivées d'argent qui étaient tout à fait inattendues. Et dans l'une de ces réponses que Dieu m'a données financièrement, je m'en suis fortement réjoui. Mais quelques heures plus tard, j'ai senti monter en moi cette conviction que je devais redonner la réponse que j'avais obtenue de Dieu, avec une délivrance financière, à quelqu'un d'autre. Inutile de vous dire que je n'ai pas tout de suite cédé à cette injonction, mais que j'ai décidé d'obéir et que j'ai décidé de partager ces quelques pains que j'avais en main et qui auraient bien été utiles dans ma vie. Ceci dit, j'ai quand même fait ce pas de redonner ce que j'avais reçu, financièrement parlant, à quelqu'un d'autre. À ma grande surprise, quelques jours plus tard, j'ai reçu, pour un exemple particulier, 5 fois plus que ce que j'avais pu donner. Donc, dans ma vie personnelle, je dirais que j'ai expérimenté quelque chose de ce miracle dont il est question ici dans cet évangile de Marc. Mais c'est aussi valable sur le plan de situations où nous nous trouvons, où nous ne sommes pas forcément prêts pour telle ou telle mission, telle ou telle tâche. Venons tel que nous sommes à Jésus, apportons-lui ce que nous avons fait, le peu que nous avons, et je peux vous assurer, je l'ai vu à maintes reprises, j'ai vu comment le Seigneur Jésus a vraiment démultiplié le peu que je lui ai apporté, que ce soit dans une prédication, dans une intervention ou autre. Alors pour moi, disciple de Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ? Je suis invité à recevoir, à entendre cette attention que Jésus a adressée aux disciples, c'est vrai, mais qu'il m'adresse aussi aujourd'hui. Attention, car si je suis disciple de Jésus, cela me permet d'avoir accès à une autre dimension de vie, à une autre logique de vie, celle du royaume de Dieu. Et je l'oublie bien souvent. En effet, je me souviens d'expériences où j'ai vu la puissance du Seigneur se manifester dans ma vie, dans bien des domaines, mais bien souvent je me suis rendu compte que dans d'autres situations qui se présentaient à moi, j'avais tendance à oublier ce que Dieu avait fait pour moi dans le passé, comme les disciples venaient d'oublier eux aussi la multiplication des 5000 pains et des 4000. Mais je suis aussi invité à dire merci. Merci parce que la logique du royaume me détourne de moi-même. Elle me détourne de mes besoins personnels. Et puis merci parce que cette logique m'entraîne à donner le peu que j'ai à Jésus, soit concrètement, matériellement, soit dans la prière, dans un acte d'abandon que seule la foi peut initier. Et Jésus peut multiplier ce peu, répondre ainsi à mon besoin, mais me permet également d'être une bénédiction pour beaucoup d'autres autour de moi. Et puis enfin, merci à Jésus-Christ, car il me permet de vivre une aventure sans cesse renouvelée avec lui. Et pour moi, qui suis peut-être non-croyant ou sceptique, là encore, les évangiles nous étonnent par leur honnêteté, leur transparence, leur authenticité. Elle nous présente des exemples d'individus qui, soit ne croyaient pas, ou alors doutaient. Je pense à un certain Nathanaël, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, à qui un dénommé Philippe dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël de répondre honnêtement « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Ce à quoi Philippe répond « Viens et vois !» Alors, mon ami, cher auditeur, si tu ne crois pas, si tu doutes, je voudrais juste te dire, comme Philippe l'a dit à Nathanaël, « Viens et vois !» Je voudrais, pour conclure, vous inviter à une prière que je vais formuler, et je vous invite aussi peut-être à la dire avec moi si vous le souhaitez. Notre Père, nous te remercions pour ce cadeau immense que tu nous fais de nous aimer, nous, êtres humains. Merci de nous rappeler aujourd'hui qu'en Christ, nous sommes pleinement aimés, acceptés, et que nous pouvons simplement recevoir de toi tout ce que tu es prêt à nous donner. Tu nous invites à nous approcher de toi tel que nous sommes, en pleine vérité, à t'apporter ce que nous sommes, nos peurs, nos inquiétudes, nos besoins matériels, les maladies qui affectent nos corps, nos relations abîmées, nos espoirs déçus peut-être, pour te laisser l'opportunité d'apporter tes solutions là où nous ne voyons qu'impossibilité ou inconnu. Merci de nous redire que tu es bon, que tu nous aimes et que tu es prêt à nous étonner. Amen.
J'étais en compagnie de Thierry André, pasteur et chargé de mission Lien Fédératif pour la Fédération Protestante de France. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération Protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Valérie Lavalard pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantaupluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant service protestant. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivies à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bonne journée à vous sur France Culture.